Bonjour à toutes, bonjour à tous, merci de vous réveiller avec un autre jour. Est possible votre réveil culturel tous les jours de la semaine de 6h à 6h30 ou quand vous voulez en passant par le podcast disponible sur franceculture.fr. Une émission préparée avec Anaïs Isbert, réalisée par Thomas Duterre avec ce matin à la technique Nicolas Delmas. Depuis lundi, Tristan Garcia, notre tête chercheuse de la semaine, revisite l'histoire de la bande dessinée, l'art des âges et des images. Dans un instant, le troisième épisode. Et puis, en deuxième partie, là aussi, depuis lundi, on célèbre les grands auteurs de bandes dessinées japonaises, les grands mangaka. Et aujourd'hui, nous allons parler de Teio Matsumoto avec Florent Chavouet, le dessinateur, Benoît Peters et Stéphane Beaujean. Tout de suite, tête chercheuse. Et des images. Bonjour Tristan Garcia.
Bonjour.
Très longtemps, la bande dessinée ne s'est adressée qu'aux garçons, aux vieux garçons. Il n'y avait plus de famille, il n'y avait plus de filles. Pourquoi ? Que se passe-t-il ? Comment expliquer ce phénomène ?
On pourrait dire que c'est une sorte de névrose collective dont la bande dessinée européenne, et plus particulièrement franco-belge, est l'illustration ou de délire collectif pendant une trentaine d'années, pendant ce qu'on appelle parfois l'âge d'or de la bande dessinée franco-belge. De la bande dessinée, on a coutume de dire qu'il y a trois foyers de naissance et d'expansion. Il y a la bande dessinée américaine, dont on a un peu parlé, avec les strips, les comic strips, les comics, plus tard les super-héros. Il y a la bande dessinée japonaise, qui commence dès le 19e siècle, puis qui est muselée par l'émergence du régime militariste et qui renaît en 1945 avec Tezuka. Et puis il y a cette ère culturelle qui nous est propre, qui est l'ère franco-belge, l'ère francophone et plus particulièrement la Belgique. La bande dessinée franco-belge, elle connaît, elle se développe dès le début du XXe siècle, mais elle connaît un âge d'or à partir de l'après-guerre et disons jusqu'à mai 68 à peu près. C'est ce qu'on appelle le moment. Récemment, on a parlé d'un moment franco-belge, par exemple dans une vaste histoire de la bande dessinée. Ce moment de la bande dessinée franco-belge, il est centré sur la création d'un certain type de héros. Même d'une subjectivité, d'un sujet, pourrait-on dire. Ce sujet, c'est, pour que nos auditeurs s'en fassent une image précise, ce sujet, il nous est très familier, c'est, pourrait-on dire, l'éternel Boy Scout. C'est un petit peu Tintin, un petit peu Spirou, un petit peu Johan et Pirlouit, mais aussi un petit peu Lucky Luke, c'est un petit peu Lefranc, c'est un petit peu Black et Mortimer. C'est-à-dire un petit peu tous les héros de Vaillant, Tintin et Spirou dans les années d'après-guerre. Or, quand on se penche un petit peu sur ce type de héros, on s'aperçoit que la bande dessinée a produit un sujet tel que probablement dans aucun art humain on en avait produit jusque-là. Ce sujet, c'est en apparence un jeune garçon, toujours amical, plein d'allant, plein d'enthousiasme, qui se bat pour le bien, qui se bat pour l'amitié, qui ne vieillit jamais, qui la plupart du temps n'a pas de famille, qui est un garçon mais est asexué, n'a pas de relation sexuelle, n'a même pas de relation amoureuse, qui très souvent n'a aucune des marques de ce qu'on appelle les caractères sexuels secondaires, qui sont propres à la puberté. Alors, parfois, l'acolyte en a. Alors, on pourrait dire, Mortimer, par exemple, a une barbe, ou le capitaine Haddock a une barbe. Mais ni Tintin, ni Spirou, ni Johan et Pirlouit, ni Lefranc, n'ont par exemple jamais de barbe qui pousse lorsqu'ils passent 3 ou 4 jours dans le désert. Ils sont éternellement imberbes. Une des choses, si on essaye de s'intéresser à l'imaginaire franco-belge de l'âge d'or, par exemple, une des choses probablement les plus impudiques qu'on peut imaginer, c'est d'imaginer les tétons de ces personnages, qui ne sont jamais torse nus, parce que les tétons, on le sait, sont des caractères sexuels secondaires, comme la pilosité. D'ailleurs, lorsqu'il y a eu des parodies érotiques à partir des années 60-70 de Tintin ou de Spirou, la première chose qu'on a faite, par exemple dans un pirate célèbre qui s'appelait Tintin en Thaïlande, c'était de représenter ces personnages avec une barbe de 3 jours et les mettre torse nus, afin de les sexualiser. Et afin, au fond, de montrer qu'ils n'échappaient pas au devenir organique, qu'ils étaient des corps. Car au fond, tout ce que la bande dessinée franco-belge a essayé de produire dans l'après-guerre, c'est un sujet éternellement enfantin, qui échapperait au devenir des corps, qui échapperait au devenir organique.
Mais rien de plus normal puisque cette bande dessinée s'adressait aux enfants.
Exactement, aux enfants et plus particulièrement aux garçons. Parce qu'on sait qu'il y avait, à l'époque c'était extrêmement genré, il y avait des journaux pour les filles, hein, depuis longtemps, la semaine de Suzette, etc. Mais qui souvent ne proposaient pas de la bande dessinée, qui proposaient des récits illustrés ou des petits contes, hein, avec des variations sur la comtesse de Ségur. Pour les garçons, il y avait la production de ce héros. De ce héros qui est à la fois un garçon et en même temps n'est pas vraiment sexué, qui est dur à définir, et qui est au fond une sorte de création absolue de l'art de la bande dessinée, dont on a dit le but de la bande dessinée au fond, c'est de produire une image immobile du mouvement, c'est de neutraliser la puissance destructrice du temps. Ben, le héros de bande dessinée, dans Tintin ou dans Spirou, c'est le héros précisément qui échappe à, qui est en mouvement perpétuel, puisqu'il est en train de bouger de case en case. On peut penser à un album comme L'affaire Tournesol, par exemple, dans lequel Tintin est sans cesse en train de prendre des moyens de locomotion. Il prend l'avion, il prend l'hélicoptère, il prend le train, il prend la voiture, il bouge toujours.
Donc le héros, court, ouais.
Il court, il marche. Le héros de bande dessinée est en mouvement. C'est le sujet même du mouvement. Il est en mouvement, mais il ne devient pas. Il n'est pas soumis au devenir organique. On sait par exemple que Hergé, qui avait beaucoup de névrose, était probablement obsédé par tout ce qui concernait la vie organique, la décomposition. Pas seulement la sexualité, on sait qu'Hergé avait des rapports problématiques à la sexualité, mais aussi à la décomposition, à tout ce qui marque le devenir organique. On peut même penser que l'esthétique d'Hergé, qu'on a appelé plus tard à la fin des années 70 la ligne claire, avait pour but de produire un dessin, une représentation d'un monde cristallin, d'un monde pur, où toute chose était entourée par un trait, qui était là pour contenir son devenir organique. Dans Tintin, rien n'est jamais sale. Dans Tintin, rien n'est jamais... Dans Tintin, il n'y a pas de poussière. Dans Tintin, les choses ne se décomposent pas. Parce que dans Tintin, les choses sont nettement cernées. Dans Tintin, en fait, l'esthétique de la ligne claire permet au regard du lecteur de se maintenir toujours à la même distance du monde, approximativement. On n'entre jamais dans la matière et on ne fait jamais de pas de recul. Hein, la ligne claire, c'est un principe d'économie du trait qui fait que tout objet va être cerné de manière à être distinguable des autres choses, va être cerné par un trait fermé, et ensuite il va y avoir des aplats de couleurs qui vont être posés, de manière à ce que le monde soit nettement découpé. Et le but du découpage dans Tintin, comme d'une autre manière dans Spirou ou dans Tiffy Tondu, c'est au fond, pourrait-on dire, de juguler le devenir organique des choses, de faire en sorte que les choses ne se décomposent pas, qu'on ne voit pas les choses pourrir, qu'on ne voit pas les choses changer, et qu'on ne voit pas les choses avoir une forme de vie. Du coup, tous ces héros franco-belges, profondément, vont être des êtres purs, non organiques, des sortes d'idées cristallines, des sortes d'idées désincarnées, qui ne vont jamais rencontrer de femme. Et la femme va être la figure de l'autre, qui va être la figure qui va charrier avec elle la sexualité, le monde organique, la reproduction, et qui va être mise hors jeu de toutes ces bandes d'après-guerre. À ça, il y a une raison concrète qu'on connaît et qui a été étudiée, qui est la loi sur les publications jeunesse après-guerre. Il y a une sorte d'alliance politique en Europe après-guerre entre des républicains, des socialistes, des communistes, des chrétiens aussi, beaucoup évidemment en Belgique, qui vont être extrêmement inquiets de la possibilité d'une invasion du marché européen, du marché français et belge, par les productions américaines. Ils vont trouver un biais nationaliste pour se défendre de ces productions, c'est que dans ces productions, il y a des femmes. Il y a des femmes fatales. On pense par exemple aux très belles productions de Milton Caniff, qui a inspiré plus tard Corto Maltese. Dans Terry et les pirates, par exemple, il y a le personnage de Raven Sherman, qui non seulement est une femme, c'est une forte femme, c'est un personnage féminin central, qui est là même pour éduquer le personnage de Terry, qui est le jeune garçon, mais cette femme va mourir. C'est-à-dire que dans les bandes américaines, il y a la sexualité, il y a la mort. Et c'est ça qui va être mis hors jeu, au fond, par la loi sur les publications jeunesse après-guerre. Cette loi n'interdit pas formellement aux auteurs de bandes dessinées de représenter des femmes. Simplement, elle va cadrer la représentation des femmes de telle sorte qu'il n'y a pas de représentation impudique qui soit permise. Par exemple, on ne va pas pouvoir représenter les femmes avec les cheveux lâchés. Il faut que les femmes portent un foulard. C'est ça qui fait que dans les quelques scènes de foule dans lesquelles on aperçoit des femmes dans la bande dessinée franco-belge classique, hein, dans les premiers Jacques Martin ou dans les Jacobs, les femmes portent des foulards. C'est un impératif de pudeur. On entre en bande dessinée comme on entrait dans les églises, couverte, pas en cheveux, comme on disait. Et ça va avoir un effet sur les dessinateurs de bande dessinée, qui est que la représentation de la femme n'est pas interdite, mais elle est tellement cadrée, elle est tellement normée qu'elle va enlever tout désir. Elle va castrer, pour ainsi dire, les producteurs de bande dessinée qui déjà dans leur éducation, on le sait avec Hergé, avec Franquin, sont des sortes de grands enfants qui ont des difficultés à représenter le féminin. Dans les entretiens avec Nouma Sadoul, Hergé dit qu'il n'oserait pas dessiner des femmes parce que les femmes sont trop belles et qu'il n'arriverait jamais à la hauteur de la beauté féminine qui l'intimide. C'est pour ça qu'il représente un monde d'éternels garçons, comme Franquin, comme Jacques Martin, comme Jacobs, probablement. Donc, les auteurs de bandes dessinées franco-belges classiques vont s'auto-censurer, en quelque manière, en mettant hors champ le féminin. Ils vont le mettre hors champ en s'appuyant sur cette loi qui, à la fois, les contraint et en même temps les soulage, je crois. Elle les soulage de ne pas avoir à assumer leur désir dans le dessin. C'est-à-dire que dans le dessin, ils ne vont pas représenter leur frustration sexuelle, ils ne vont rien représenter de désirable. Et c'est pour ça qu'ils vont créer un monde, pendant une trentaine d'années, extrêmement étrange, qui est le monde de la bande dessinée franco-belge, qui est un monde d'où tout désir sexuel va être expurgé. Il n'y a pas d'objet de désir. Il y a parfois un objet de désir homo-érotique qui a été beaucoup commenté chez Jacques Martin, par exemple, dans Alix. On a beaucoup glosé, et apparemment à la grande honte de Jacques Martin, sur les relations homo-érotiques qui existaient entre, par exemple, Borg et Lefranc, ou entre Alix et son jeune apprenti. La création de ce sujet, donc, est un sujet un peu délirant, hein, le héros de la bande dessinée franco-belge, qui est la réalisation la plus pure, peut-être, du fantasme de la bande dessinée, qui est de neutraliser la puissance du temps. En neutralisant la puissance du temps, on produit un sujet qui n'est pas soumis au devenir, donc qui n'est pas soumis à la sexualité, qui n'est pas soumis à la reproduction, pas soumis au vieillissement, aux relations familiales, qui échappe à tout ça.
On dira pas l'éternelle jeunesse, mais l'éternelle enfance.
L'éternelle enfance. Évidemment, le problème de l'éternelle enfance, c'est qu'elle est malgré tout. Elle existe dans la société et au fil des ans, jusqu'aux années 60, l'éternel enfant va simplement apparaître comme un vieux garçon. Je pense à une bande dessinée comme Tiff et Tondu, par exemple, où les deux personnages vont voir arriver de plus en plus de personnages féminins à mesure que le dessinateur Will essaye de se libérer, essaye d'introduire des personnages féminins, Kiki, le personnage d'Amélie Dieu, par exemple, dans la série Tiff et Tondu. Mais ils sont condamnés à ne pas avoir de sexualité. Ce sont deux vieux bonhommes qui sont simplement définis par un trait, dans un monde qui finit par les déborder. Le monde de Tiff et Tondu devient de plus en plus réaliste. C'est un monde où apparaît la contre-culture, où les autres personnages commencent à porter des jeans en pas de def, où la jeunesse commence à être représentée, mais eux, la sexualité, le désir, leur sont à tout jamais interdits. Et il y a, à mon avis, une dernière raison à la création de cette subjectivité délirante qui est le vieux garçon de la bande dessinée franco-belge, c'est un imaginaire colonial refoulé. Car tous ces personnages, si on prend l'exemple de Tiff et Tondu, mais aussi bien de Spirou ou de Tintin, il faut pas oublier que tous ces personnages ont été créés sur la demande en général d'éditeurs. Hein, on pense à Dupuis, on pense à l'abbé Valèze pour Tintin, hein, qui était le confesseur d'Hergé, ont été créés pour pouvoir être envoyés dans les pays colonisés. Au fond, Tiff et Tondu sont créés pour pouvoir aller chez les Pygmées. Tintin est créé pour pouvoir aller au Congo. Spirou est créé pour pouvoir aller en Afrique de l'Ouest. Le but de... Alors, pourquoi créer ces sortes de personnages, de boy scout éternels, d'éternels enfants et de futurs vieux garçons, pour les envoyer en Afrique? Je crois qu'il y a un mécanisme bizarre, dur à décrypter, qui est une sorte d'inversion par laquelle l'Europe, à force de traiter les pays colonisés comme des grands enfants, s'est représentée à elle-même sous la forme d'un éternel enfant. La bande dessinée, c'était à destination... La bande dessinée franco-belge, on parle de deux grandes puissances coloniales, c'est pas un hasard. La France et la Belgique sont les puissances coloniales majeures en Afrique, avec l'Angleterre et l'Italie, qui sont les deux autres productrices de bandes dessinées en Europe. Remarquons par exemple que l'Allemagne ou l'Espagne vont produire très peu de bandes dessinées et sont des puissances coloniales mineures. Il y a un lien profond entre le colonialisme et la production didactique, pédagogique de bandes dessinées à l'usage des enfants. Des enfants des pays colonisateurs. Au fond, ces pays colonisateurs, je crois, se sont représentés, de manière coupable, sous la forme d'éternels enfants qui allaient tendre la main aux grands enfants africains, de telle manière que Tintin ou Spirou représentent l'Europe. Ils représentent une Europe juvénile, une Europe amicale, qui, on le voit, est toujours là pour punir les méchants colonisateurs qui apparaissent dans les bandes dessinées, qui sont ceux qui se comportent mal avec les indigènes. Et pour se situer sur une sorte de plan d'égalité avec le colonisé. Puisque les colonisés sont des grands enfants, bah l'Europe se représente comme un éternel enfant, amical, ami, partout toujours, comme disait le slogan de Spirou, qui va aller tendre la main aux peuples africains. Et pourquoi cet enfant éternel? Pourquoi cet enfant qui vieillit pas? Je crois que ça naît de la conscience et de la peur européenne au début du XXe siècle de voir que l'histoire allait jouer contre elle. L'Europe a conscience du fait que son règne colonial va prendre fin, que l'histoire est en train de jouer contre une Europe vieillissante, une Europe qui commence à se représenter comme vieillissante, une Europe qui sait que bientôt, 10, 20 ans plus tard, inéluctablement, elle va perdre son rôle de centre du monde. Et pour compenser ça, elle représente auprès des enfants, elle se représente elle-même sous la forme d'un enfant éternel, qui neutralise l'histoire, qui restera toujours le même, et qui amicalement ira serrer la main des peuples colonisés. Donc je crois qu'au fond, Tiffée Tondue, Tintin, Spirou, il faut savoir regarder en face, pour l'amateur de bande dessinée, dans les querelles qui naissent aujourd'hui dans la conscience postcoloniale. Je pense par exemple à toutes les querelles autour de la republication ou non de Tintin au Congo. Il faut regarder en face le fait que ces personnages sont l'incarnation enfantine de la conscience coloniale. Et que sans la conscience coloniale, il n'y aurait pas eu ces éternels enfants de la bande dessinée franco-belge.
L'histoire de la bande dessinée, revisitée par Tristan Garcia, l'art des âges et des images, demain suite de la série, demain suite avec un quatrième épisode consacré à la crise d'adolescence. Vous restez avec nous?
Tout à fait.
Tristan Garcia, on va passer à la deuxième partie de l'émission. Et depuis lundi, on rend hommage aux grands mangaka, les grands auteurs de la bande dessinée japonaise. Dans un instant, Taiyo Matsumoto.
Jour est possible. Votre réveil culturel, tous les jours, de 6h à 6h30, par Tufika Kem.
Les grands mangakas, depuis lundi, on parle des grands mangakas. Lundi, on a parlé de Mizuki avec Frédéric Potté et Riyad Satouf. Hier, on a parlé en compagnie de Stéphane Beaujean et de Benoît Peters, aussi bien de Jiro Taniguchi que d'Osamu Tezuka. Aujourd'hui, nous allons parler de Matsumoto, Taiyo Matsumoto, avec un auteur de bande dessinée d'ici, de France, Florent Chavouet, qui est un amateur de cet auteur japonais. Bonjour Florent Chavouet.
Bonjour.
Alors, dites-nous tout, comment êtes-vous devenu un fan du travail de Matsumoto?
Je l'ai découvert peut-être un peu sur le tard, et moi ce qui me plaît chez cet auteur, c'est plein de choses évidemment, mais entre autres son style graphique qui est assez, c'est un peu une banalité de dire ça maintenant parce qu'ils sont plusieurs, mais qui est assez différent du flow des mangas qu'on peut avoir entre les mains. Lui, son style graphique est très, très particulier, très marqué. J'adore surtout ses cadrages, mais ses angles de vue qui sont, avec des perspectives très plongeantes, avec une ligne d'horizon toujours pas parfaitement horizontale justement, mais plutôt en biais souvent, avec comme si dans les intérieurs, par exemple, comme si le point de vue a été placé dans un coin supérieur vers le plafond. Souvent, on domine un peu les personnages comme ça. Et c'est cet ensemble-là, enfin, je trouve que ça donne du coup des points de vue et un dynamisme au récit assez particulier, assez marqué, assez différent. C'est ça qui m'a en premier lieu séduit lorsque je disais, quand j'ai quand ces premiers mangas me sont tombés dans les mains, que j'arrivais pas à les lire et que je me contentais du dessin.
Florent Chahouet, au bout du fil, merci beaucoup et surtout merci pour le dessin en hommage à Taiyo Matsumoto que vous avez fait exprès et spécialement pour un autre jour est possible. Merci beaucoup.
Merci.
Tristan Garcia, avant de vous laisser filer, vous avez sans doute des choses à dire à propos de Matsumoto.
C'est drôle parce qu'il y a deux Matsumoto quand on est amateur de manga. Il y a Leiji Matsumoto, qui est classique et pourrait-on dire presque apollinien, une sorte de pureté chez Leiji Matsumoto, alors que chez l'autre Matsumoto, il y a quelque chose de bachique, et il y a quelque chose de dionysiaque, et il y a quelque chose de fou et de tordu. Et chez Matsumoto, moi j'étais très marqué par exemple par la première de ses bandes dessinées publiée en Europe, qui est Amer Béton.
Pourquoi ?
C'était l'apparition du thème de l'ultra-violence qui fascinait beaucoup dans les premiers mangas, hein, comme dans Akira, mais de manière beaucoup plus réaliste, beaucoup plus dure que dans Akira, parce qu'il n'y avait pas le genre, il n'y avait pas le fantastique. Et puis avec un ton un peu bizarre auquel on n'était pas accoutumé à l'époque. On avait l'impression que tous les dialogues étaient à l'image même du trait, un peu tordus ou tombés à côté.
Taiyo Matsumoto est un auteur pour qui j'ai une immense affection. Il fait partie des auteurs que j'aime le plus au monde aujourd'hui, toutes nationalités et registres confondus. C'est un auteur qui est très très vite associé à l'idée de poésie en bande dessinée, ce qui n'est pas courant. Et en même temps, il est extrêmement accessible. C'est un auteur aussi très incarné, qui frappe tout le temps sur le même clou. Comme on dit, un artiste, c'est quelqu'un qui tape tout le temps sur le même clou. Et lui, c'est toujours le cas. C'est quelqu'un qui est obsédé par l'enfance, quelqu'un qui a vécu en orphelinat entre 6 et 10, 12 ans. Sa mère est une grande poète japonaise qui a eu des moments de démence et qui l'a abandonnée. Il en a gardé une vision de l'enfance très particulière, faite de solidarité, de complémentarité, d'aventure, de fantasme, qu'il transpose aujourd'hui en bande dessinée sous plein de formes différentes et qui offre, il faut bien le dire, une œuvre à la fois protéiforme, très variée, toujours très poétique et en même temps avec comme ça des éléments qui permettent de le reconnaître et d'être toujours content de le retrouver. Alors souvent, il parle de complémentarité entre des enfants. Souvent, c'est un garçon un peu excentrique, un peu fou, un peu perdu et d'un autre enfant qui est souvent fort, solide, très en avance et mature. Et plus le récit avance, et plus on se rend compte que l'enfant mature est finalement celui qui dépend de l'autre et qui souvent sombre dans la mélancolie, la perte de goût pour la vie. Et c'est l'enfant un peu fou qui, petit à petit, prend la place du héros et vient le récupérer. Et c'est toujours des relations comme ça, assez complémentaires, très touchantes.
Et pour parler du style, Stéphane Beauchamp, le style de Taiyo Matsumoto, il est passé par une école précise, par un studio précis. Est-ce qu'il a eu un cheminement qui pourrait caractériser son trait, son univers dans le manga ?
Alors non, c'est un autodidacte. C'est quelqu'un qui voulait devenir footballeur et qui a été rattrapé par le manga grâce à sa mère, qui lui a offert un livre de Katsuhiro Otomo, qui est le grand prix du festival d'Angoulême cette année. Ce livre s'appelait Rêve d'enfant. Et ça l'a ramené dans la bande dessinée violemment, il s'y attendait pas, et il s'est formé tout seul. Il a un trait absolument unique, personne ne dessine comme lui aujourd'hui, et son trait d'ailleurs est très instable, il le fait bouger d'un livre à l'autre, à chaque fois il est dans l'expérimentation, il peut aller vers le geste graphique lié à la peinture chinoise. En ce moment, il est sur des mélanges de techniques pour essayer de retranscrire la diversité des tempéraments des enfants dans un orphelinat. C'est quelqu'un qui passe de la couleur au noir et blanc. Il a un trait qu'on qualifierait de très vibrant, avec beaucoup de déformations optiques. Il offre une vision du monde réellement fantasmée et absolument luxuriante et très, très séduisante.
Et quelle place il a parmi les grands mangaka au Japon ? Est-ce qu'il est populaire et célèbre ?
Populaire, non, puisque le genre dans lequel il exerce, c'est-à-dire la bande dessinée pour adultes avec un fort bagage artistique, n'est pas ce qui se vend le mieux au Japon aujourd'hui. Par contre, il est extrêmement respecté.
Par la profession ?
Par la profession, par ses pairs, et puis même par le public d'une manière générale. Et il a un succès international et une véritable reconnaissance internationale également, ce qui n'est pas si courant aujourd'hui, sur tous les continents, c'est-à-dire que ce soit en Amérique du Nord, en Europe ou au Japon.
Et comment il est arrivé en France ?
Il est arrivé en France très très tôt, paradoxalement, grâce à un tout petit éditeur qui s'appelle Tonkam, aujourd'hui qui a bien grossi, mais à l'époque c'était un des tout premiers éditeurs de manga, et il a publié Amer Béton très très vite, alors que le manga était quasiment inexistant en France. Ça n'a pas eu de succès, puisqu'évidemment, les premiers acheteurs de manga de l'époque étaient des gens qui regardaient les dessins animés et qui attendaient, finalement, l'importation de des plus grands succès de la télévision. Mais il a réussi, petit à petit, à se faire un trou auprès des lecteurs un petit peu plus ambitieux, je dirais, ou en tout cas un petit peu moins coincés dans la bande dessinée japonaise. C'est très triste parce que toutes les œuvres qui ont été publiées aux éditions Tonkam, qui étaient très très poétiques, ne sont plus disponibles aujourd'hui en dehors de justement ce Amer Béton, qui est un très très beau livre et que je conseille.
Est-ce qu'il y a d'autres livres à découvrir et qui sont disponibles en France ?
Il y en a énormément. Gogo Monster aux éditions Delcourt, qui est un très beau livre, une expérience dans lequel il a voulu travailler comme les auteurs européens, c'est-à-dire sans contrainte de publication hebdomadaire. Il s'est un peu noyé dans le récit, n'ayant plus la date butoir de la fin du mois pour rendre...
Mais c'était une commande d'un éditeur européen pour Matsumoto ?
Pas du tout, c'est quelqu'un qui est fasciné par la bande dessinée européenne et qui avait envie de faire l'expérience de se mettre dans la place d'un auteur européen. Il s'est dit, je vais arrêter de travailler avec des échéances régulières et je vais essayer de faire une œuvre complète et de la publier une fois terminée. Et en fait, il avait tellement jamais travaillé dans ce genre de système et il y avait tellement aucun éditeur au Japon capable de l'accompagner dans ce genre de processus qu'il s'est noyé dans le récit, il a publié 300 ou 400 pages au bout de 2 ans ou 3 ans épuisé. C'est un très beau livre. En ce moment, il y a Sunny qui est publié aux éditions d'Argo sur son enfance dans un orphelinat. C'est un peu fantasmé, c'est pas tout à fait lui.
C'est le thème récurrent en tout cas, hein, l'orphelinat, l'enfance abandonnée. Ouais.
Ouais, l'enfance abandonnée plus que l'orphelinat. Il avait jamais vraiment abordé la question de l'orphelinat. Ses enfants sont souvent des orphelins et il y a absolument jamais de parents présents autour. Mais c'est la première fois que là, il y a des adultes justement qui rentrent en interaction avec les enfants.
Est-ce qu'on peut parler d'autobiographie ?
Oui et non. L'autobiographie est un registre pas totalement existant au Japon, j'ai envie de dire, je me suis mal exprimé, mais l'autobiographie au Japon passe souvent par le filtre d'une représentation un peu fantasmée de soi-même. On serait dans l'autofiction en France, on aborderait ça plutôt comme ça. Mais au Japon, on est dans l'intimité, ça c'est sûr.
Merci Stéphane Beaujean.
Merci à vous.
Un autre jour est possible est une émission préparée avec Anaïs Isbert, réalisée par Thomas Duterre, avec aujourd'hui la technique Benjamin Vignal. Et cette émission, vous pouvez bien sûr réécouter ou même podcaster et faire partager le podcast disponible à la page de l'émission sur franceculture.fr. On se retrouve demain, suite de notre série consacrée à l'écriture BD, en compagnie de Tristian Garcia en première partie. En deuxième partie, hommage aux grands dessinateurs de bande dessinée du Japon, les grands mangaka. Demain, nous parlerons d'Otomo, le président du festival d'Angoulême, le grand prix de l'année dernière. Et demain, on sera avec Bastien Vivès et Benoît Mouchard. Belle matinée, à demain. Sonagi, 눈물을 흘려보네.